Du pain sur la table.
Le dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Luc, texte de la liturgie catholique romaine pour le 18e dimanche. Quelqu'un parmi la foule dit à Jésus,
« Maître, dis à mon frère de partager l'héritage avec moi. »
Et il lui dit,
« Ô l'homme, qui m'a établi sur vous comme juge ou pour faire vos partages ?»
Il leur dit,
« Voyez, gardez-vous de toute avidité, parce que ce n'est pas dans le fait d'être dans l'abondance que la vie de quelqu'un vient de ses biens. »
Il leur dit une parabole,
« Le domaine d'un homme riche a bien rapporté. » Il se fait en lui-même cette réflexion, « Que faire? Je n'ai pas où rassembler mes récoltes. » Il dit, « Voilà ce que je ferai. J'abattrai mes granges et j'en construirai de plus grandes. J'y rassemblerai tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme, « Ô mon âme, tu as beaucoup de biens entreposés pour beaucoup d'années. Repose-toi, mange, bois, fais bombance. » Et Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même on te redemandera ton âme, ce que tu as préparé. » Pour qui ce sera? Ainsi de celui qui thésaurise pour lui-même et qui ne s'enrichit pas en Dieu. Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges. Voilà un petit récit qui ressemble à une leçon de morale comme en donnent les fables de La Fontaine. Mais n'y a-t-il pas une différence qui fait que de ce texte un évangile, une annonce divine?
Alors où sommes-nous? Eh bien nous sommes dans la grande section du récit de Luc qui décrit la montée de Jésus et de ses disciples vers Jérusalem. Luc y a rassemblé une grande part de l'enseignement de Jésus à ses disciples. Donnons quelques exemples. L'amour du prochain, avec la parabole du bon samaritain. L'amour de Dieu, avec l'épisode de Marthe et de Marie. La prière, qui unit l'amour de Dieu et l'amour du prochain avec le Notre Père. Le signe de Jonas, le seul signe donné par Jésus. La véritable pureté et enfin, l'attitude face au bien matériel. Et c'est notre récit qui est introduit par une demande d'un auditeur sur une question d'héritage.
Maître, dis à mon frère de partager notre héritage.
Il s'agit probablement de frères dont le père est décédé. D'après la législation israélite, seuls les garçons peuvent hériter. Les filles n'héritent que s'il n'y a pas de fils. Dans le cas d'un partage, le fils aîné aura droit à une double part des biens mobiliers, les meubles, l'argent, etc. Et il aura la propriété et l'usage de tous les biens immobiliers, les terres, les maisons. Cela permettait de ne pas démembrer les terres et aussi de faire de cet aîné le nouveau chef de famille. Souvenons-nous d'ailleurs de la parabole des deux fils. Aux récriminations du fils aîné, le père répond « Mon fils, tout ce qui est à moi » est à toi. Dans notre récit, l'aîné voudrait sans doute garder tout l'héritage en indivision, ce que la coutume permet. Le ou les autres frères, eux, voudraient avoir leur part immédiatement afin de pouvoir en faire ce que bon leur semble. Dans ces circonstances, il semble que les rabbins donnaient volontiers leur arbitrage. Mais le rabbin Jésus ne veut pas être considéré comme un juge ou un arbitre. Sans doute parce qu'il veut renvoyer chacun des frères à leur propre responsabilité. Pour Jésus, son rôle est de donner les grandes orientations que la vie doit prendre si l'on veut l'orienter vers le bonheur durable, celui qui demeure au-delà de la mort.
Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance.
Comment garantir à notre propre existence cette vie en abondance? Jésus avertit d'emblée que la richesse ne peut garantir cette vie véritable. Ce n'est pas dans le fait d'être dans l'abondance que la vie de quelqu'un est assuré par ses biens.
Tu as beaucoup de biens entreposés pour beaucoup d'années.
Jésus répond par une sorte de récit exemplaire. Il décrit la réflexion d'un homme qui a de nombreux biens et qui s'organise pour en jouir le mieux et le plus longtemps possible. Dieu entre alors en scène pour annoncer la mort imminente de ce riche. L'imminence de la mort est sans doute destinée à renforcer la leçon morale, mais cette leçon reste valable pour toutes les vies humaines. Une double conclusion vient donner le sens du récit. Que restera-t-il aux riches de ce qu'il aura préparé pour lui? Et comment éviter d'être sans rien après la mort?
Ce que tu as préparé, pour qui ce sera?
La conclusion vient illustrer la première réponse de Jésus. Gardez-vous de l'avidité, car la vie ne dépend pas des biens. Le mot grec, traduit par avidité, signifie littéralement le fait d'avoir en plus. Cet avoir plus est souligné par la répétition de l'adverbe beaucoup. Ô mon âme, tu as beaucoup de biens entreposés pour beaucoup d'années. Cet avoir plus est aussi très égoïste. Le texte foisonne de pronoms possessifs. Mes récoltes, mes granges, mon blé. Et le dialogue de cet homme est un dialogue avec son moi. Le mot grec âme traduit un mot araméen qui veut dire l'être, le moi profond. On pourrait traduire je dirais à mon moi, ô mon moi. Cet homme ne parle en fait qu'à lui-même et de lui-même. D'ailleurs, personne d'autre n'interviendra dans la réflexion sauf Dieu. Enfin, le but de tous ces biens est encore entièrement tourné vers le moi. Repose-toi, mange, bois, fais bombance. Tout a été effectivement préparé pour soi, rien n'est prévu pour les autres. Ceux-ci n'ont donc aucune place dans la vie de ce riche, pas même pour partager ses repas de fête et son plaisir. Le riche se préoccupe uniquement de lui-même, il est seul. Ses biens ne servent qu'à lui et à lui seul. Et comme on n'emporte pas l'argent dans la mort, il se retrouve dans l'au-delà, seul. Comme dit le proverbe, le coffre-fort ne suit pas le corbillard. La conclusion de l'exemple aurait pu être cette leçon qui a été déjà donnée par Jésus, que sert à l'être humain de gagner l'univers s'il se perd ou se dépouille lui-même. Ou encore, on pourrait l'illustrer par ce psaume que Jésus a dû souvent prier à la synagogue.
Ils mettent leur confiance dans leur fortune et se vendent leur grande richesse. Le droit de vivre ne s'achète pas. On ne peut pas payer à Dieu la rançon de sa vie. Pour prolonger sa vie à l'infini, le prix à payer serait trop lourd. Peut-on vivre indéfiniment sans jamais voir la fosse? Ne voit-on pas les sages mourir? Ils périssent comme le fou et l'insensé. Ils laissent leur fortune à d'autres. Ils croyaient leur maison éternelle et leur demeure établie pour les siècles. Ils avaient donné leur nom à des terres. L'homme riche et puissant ne dure pas. Il est comme la bête engraissée qu'on abat. C'est là le destin de ceux qui ont une folle confiance en eux. C'est l'avenir de ceux qui se plaisent à leurs beaux discours. Ils vont grossir le troupeau que la mort mène paître. Ne crains plus quand un homme s'enrichit et quand la gloire de sa maison grandit. Il n'emporte rien dans la mort et sa fortune ne le suivra pas. Qu'aurait dû faire le riche?
La question « que faire » est sans doute très valable ici. C'est celle-là même qui se trouve dans la bouche du riche. Que ferais-je? La première prise de conscience est peut-être celle de la propriété toute relative des biens. En effet, les biens de ce monde ne nous appartiennent pas d'une manière exclusive. Nous n'en sommes pas les propriétaires. Même gagnés par le travail, ces biens ne nous sont finalement que prêtés pour être bien gérés. Toute richesse est le fruit, le produit du travail de la multitude humaine. Personne, en effet, ne fait rien fructifier sans le concours de nombreux autres. Personne ne doit alors se considérer comme l'unique et absolu propriétaire des biens. D'une certaine façon, la terre appartient à toute l'humanité et les fruits qu'elle produit sont le concours de nombreuses personnes. Alors nous ne sommes que des locataires, des gérants des biens de ce monde. Au IVe siècle, l'évêque Basile de Césarée le disait très clairement aux fidèles de son diocèse.
Les biens présents, d'où te sont-ils venus? Si tu dis du hasard, tu es un athée, car tu ne reconnais pas le Créateur, et tu ne sais pas gré à celui qui t'a pourvu. Si tu confesses qu'ils viennent de Dieu, dis-nous la raison pour laquelle tu les as reçus. Est-ce que Dieu serait injuste, lui qui nous partage inégalement les biens nécessaires à la vie? Pourquoi es-tu riche et celui-là est pauvre? Toi qui enveloppes tous tes biens dans les plis d'une insatiable avarice, tu penses ne faire tort à personne en dépouillant tant de malheureux. Tu n'es pas un spoliateur, toi, qui de biens dont tu as reçu la gestion fait ton bien propre. À la famille appartient le pain que tu mets en réserve. Ainsi, tu commets autant d'injustices qu'il y a de gens à qui tu pourrais donner.
Nous sommes donc les gérants des biens de ce monde, et cela inclut une responsabilité. Non seulement nous devons être de bons gérants qui ne dilapident pas les biens, mais aussi nous devons les gérer en partageant une bonne part des fruits avec les plus démunis. Les plus démunis n'ont pas eu les ressources que nous avons eues. La vie ne donne pas des chances égales à tous, soit au plan de la santé, ou au plan de l'intelligence, ou encore au plan de l'héritage, l'héritage qui nous vient de la famille ou du pays dans lequel on est. Ces chances induisent donc des responsabilités. De nombreux passages de l'Évangile nous indiquent ce qu'il nous faut faire de nos biens.
Vendez vos biens et donnez-les en aumône.
À l'homme riche qui lui demande « Quoi faire pour vivre de vie divine ?» Jésus dira
« Tout ce que tu as, vends-le et distribue-le aux pauvres. »
Le partage avec les démunis est donc la première façon de collaborer à plus de justice. Voilà quelle est la responsabilité des plus riches. Considérer les biens dont on dispose comme notre absolue et unique propriété, c'est d'une certaine façon exclure les autres de l'horizon de notre vie. C'est bâtir notre existence dans l'isolement et c'est finalement être sans amis. Le partage, au contraire, crée, le plus souvent, des relations d'amitié. C'est une des façons de l'épisode du gérant, de l'épisode du gérant malhonnête. Ce gérant qui a perdu sa place parce qu'il a mal administré les biens de son patron s'arrange en effet pour se faire des amis en réduisant les redevances de ses créanciers. Remarquons qu'il n'est pas sûr que ce geste soit une escroquerie. Il appartenait en effet au gérant de fixer lui-même les redevances des fermiers. Et peut-être que le gérant de cette parabole les avait largement majorées, ce serait alors sa malhonnêteté, pour que le pourcentage de la redevance qui lui revenait en propre, soit plus grand. De toute manière, la conclusion de l'épisode est celle-ci.
Et le maître loua cet intendant malhonnête d'avoir agi de manière avisée. Car les fils de ce monde sont plus avisés que les fils de lumière. Faites-vous des amis avec l'argent, afin que ceux-ci vous accueillent dans les tentes éternelles.
Notre texte parle aussi de la même façon en disant qu'il faut s'enrichir en Dieu.
Ainsi de celui qui thésaurise pour lui-même et qui ne s'enrichit pas en Dieu.
Les autres passages évangéliques comportent également cette perspective.
Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas. un trésor inépuisable dans les cieux. Tu auras un trésor dans les cieux.
Les cieux désignent ici la vie avec Dieu. Alors, que comprendre de ce trésor dans les cieux, de ce trésor dans la vie avec Dieu? Est-ce que ce serait Dieu qui récompense celui qui distribue ses biens aux pauvres? Ou n'est-ce pas plutôt que l'amitié, qui sera tissée par le partage entre favorisés et démunis, cette amitié demeurera dans l'éternité? Celui qui a vécu en se faisant des amis les retrouvera dans l'au-delà. L'évêque Basile disait que les pauvres sont des greniers suffisants et qu'en partageant, on s'enrichit des amitiés qui naissent du partage. Mais ajoutons que ces amitiés seront d'autant plus vraies chez les pauvres. Partager en effet avec ceux qui peuvent partager en retour, c'est risquer de construire des amitiés fragiles, des amitiés qui sont nées de l'intérêt réciproque. Alors que partager avec ceux qui ne peuvent rien nous rendre, c'est bâtir une relation sur la gratuité. Et ce qui se construit ainsi sur la gratuité a une grande force de fidélité et de pérennité. Cette amitié gratuite est un trésor que nul voleur ne peut prendre, qu'aucune mythe ne peut détruire. Un proverbe biblique semble bien décrire cela. « Qui donne aux pauvres prête à Dieu », lit-on dans le livre des Proverbes au chapitre 19. Que veut-il dire? Aux pauvres, on ne peut que donner, on ne peut pas prêter. Et seul celui qui vit de vraie gratuité peut recevoir de Dieu. Car Dieu ne prête jamais en échange de quelque chose. Dieu ne peut que donner gratuitement, et il ne peut donner gratuitement qu'à celui qui sait recevoir gratuitement. Le sermon sur la montagne explicite cela. Ainsi il est dit en Matthieu, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? » Ce que Luc, lui, traduira de cette façon.
« Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle gratitude sera pour vous ? Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, quelle gratitude pour vous ?»
En Dieu, il ne peut y avoir de salaire qui soit donné en retour du bien que l'on aura fait à quelqu'un. Un retour est de l'ordre de l'équité, de l'ordre de la justice dans les relations. Cela ne joue plus dans les relations d'amour, où seule la gratuité peut exister, où elle est nécessaire pour qu'il y ait véritable amitié. L'amitié, en effet, ne se nourrit pas d'abord de la stricte justice, mais du don et de la générosité. Une amitié qui serait basée sur le donnant-donnant est une amitié en péril, en survie. Prêter à Dieu, c'est vivre la gratuité. Dieu certes manifestera toujours sa bonté, mais ce ne sera jamais par un retour qui serait une équivalence de ce que nous aurions donné. Si c'était une équivalence de ce que nous aurions donné, nous recevrions probablement bien peu. Attendre de Dieu une récompense, c'est vouloir vivre une relation de stricte justice avec ce Dieu, Père, qui n'est qu'amour et bonté. Dieu ne peut pas nous récompenser, donner en retour de quelque chose, sans se renier lui-même. À ce proverbe, qui donne aux pauvres prête à Dieu, une grand-maman québécoise connaissait une suite qui me semble tout à fait évangélique. Elle disait, « Et c'est la vie qui le lui rendra. » Oui, en effet, c'est toute la vie qui est un don de Dieu. C'est au long de toute notre vie, et dans la pure gratuité, que Dieu nous fait grâce, gratitude. Ce proverbe se retrouve d'ailleurs dans une homélie de Basile de Césarée qui traite du prêt à intérêt.
Et quel est donc l'ordre du Seigneur? Prêter sans rien espérer en retour. Comprends la force de cette parole et tu admireras la bonté du législateur. En effet, celui qui a compassion du pauvre prête à Dieu. Le maître de toutes choses ne mérite-t-il pas d'être accepté comme garant de cet argent? Et tu refuseras Dieu comme caution du pauvre. Fais confiance au Seigneur. Il te paiera largement l'intérêt des pauvres. Attends avec confiance l'épreuve de bonté de la bonté même. Thank you. Malheureux, vous les riches, vous avez votre consolation.
Ce n'est pas la richesse elle-même qui est condamnable. Ce qui est condamnable, c'est de chercher le bonheur dans les biens au lieu de le chercher dans les relations humaines. Seules les relations basées sur la gratuité peuvent nous apporter un bonheur durable. Voilà la raison de la recommandation qui est fréquente chez Jésus.
Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez. Cherchez le règne de Dieu, tout le reste est donné en plus.
Chercher le règne de Dieu, c'est miser toute l'existence sur la relation avec Dieu comme avec le Père. Et c'est aussi miser son existence sur les relations aux autres comme avec d'autres fils et filles du Père. C'est donc tout miser sur la gratuité de l'amour. Notre société ne s'éloigne-t-elle pas le plus souvent de cette orientation? Tout en effet n'est-il pas programmé pour faire des profits? Ne sommes-nous pas endoctrinés par la publicité, conditionnés à voir le bonheur de notre vie dans la consommation, si ce n'est dans l'accumulation des biens matériels? Jacques Godbout, le sociologue québécois, parle d'une société qui doit retrouver l'esprit du don si elle veut survivre. Dans son livre « L'esprit du don », Godbout associe le don au lien de relation. Qualifions de don, dit-il, toute prestation de bien ou de service effectuée sans garantie de retour en vue de créer, nourrir ou recréer le lien social entre les personnes. Et Pierre Després commente ainsi le livre.
Dans un monde où nos relations à l'univers et à autrui sont devenues parfaitement fonctionnelles, il devient urgent de redonner à l'esprit du don la place essentielle qu'il a toujours occupée dans les sociétés humaines. Un tel esprit ne pourrait que contribuer à désamorcer la division et la violence de nos sociétés modernes.
Jean-Paul II nous a invités, il y a quelque temps, à fêter le jubilé de l'an 2000 en travaillant à convaincre les gouvernements occidentaux d'annuler la dette des pays du tiers-monde. Célébrer le jubilé, renouveler le monde, était une initiative canadienne œcuménique qui comprenait des organisations religieuses, environnementales, syndicales, féminines et de promotion de la justice. Elle proposait alors à nos signatures le texte suivant.
Nous, les sous-signés, estimons qu'il y a lieu de marquer le tournant d'un nouveau millénaire en donnant de l'espoir aux populations démunies de notre planète. Pour assurer un nouveau départ, nous croyons que le moment est venu d'éliminer les dettes accumulées, dont le poids accable les pays les plus pauvres et qui ne peuvent être remboursées. Nous demandons aux dirigeants des pays créditeurs de renoncer à ces dettes. Nous demandons également à ces dirigeants de prendre des mesures pour que l'endettement ne puisse plus jamais atteindre de tels niveaux. À cette fin, ils doivent promouvoir le développement durable sur le plan économique et social, au lieu de favoriser les mesures imposées par les institutions financières internationales, qui ont pour effet d'appauvrir encore davantage les populations les plus démunies de la Terre par la destruction de l'environnement et des systèmes de santé et d'éducation.
Eh bien, le jubilé est passé. Certains pays ont répondu en partie à cet appel, mais la pauvreté des pays en voie de développement continue. Il ne faut donc pas nous démobiliser. Sommes-nous prêts à faire notre part pour donner aux pays pauvres? Et en premier lieu, à faire notre part en payant le juste prix des produits que nous importons de ces pays, à savoir les bananes, le café, le riz. Une belle initiative en ce sens est l'initiative du café équitable. Le prix de ces produits, en effet, est le plus souvent fixé par les pays riches qui les importent, et ces prix ne tiennent pas compte du juste prix à payer à ceux qui produisent. On ne peut pas vouloir annuler la dette des pays pauvres sans en consentir le prix à payer pour nous, sans ressentir concrètement le prix de la solidarité et du partage. Cela demande une conversion intérieure de chacun. Suis-je conscient que je ne suis qu'un gérant des biens de la terre et jamais un propriétaire exclusif? Suis-je de ceux qui thésaurisent pour eux-mêmes ou de ceux qui s'enrichissent en ce qui concerne Dieu? Suis-je un fils de lumière avisé Ou suis-je un insensé, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas misé sur la gratuité à la manière de Dieu? Cette attitude est dite insensée parce qu'elle entraîne l'humanité à la catastrophe, à la fois celle des pays pauvres de plus en plus affamés et celle des pays riches de plus en plus gavés de publicité et de consommation. Elle est insensée parce qu'il est impossible de vivre avec Dieu dans un tel contexte d'égoïsme et d'aliénation. La leçon donnée par Jésus est peut-être une morale à la manière des fables de La Fontaine, mais elle nous a d'abord transportés au plan de notre relation à Dieu, le Dieu de la gratuité et de l'amour, pour qu'ensuite nous transposions cette lumière au plan de nos relations humaines. N'est-ce pas toujours dans notre relation au prochain que se vérifie la vraie nature de notre lien à Dieu?
Si quelqu'un jouissant du monde voit son frère dans la nécessité et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne saurait aimer Dieu qu'il ne voit pas. C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
514-256-4110. Vous nous trouverez également sur Internet. Voici l'adresse de notre site. www.relaismontroyal.com. Relais Mont-Royal en un seul mot et sans trait d'union. Vous pouvez également vous abonner au feuillet ou aux cassettes. Téléphonez-nous, nous vous donnerons les tarifs.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine. Ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.